Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toutes la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis trop contente, ça fait très longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode avec un ou une invitée. En l'occurrence, c'est une invitée, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec une consoeur, une sophrologue plus exactement, sur une thématique qui, je pense, devrait vous intéresser, l'anxiété. On parle beaucoup de stress aujourd'hui, de peur, mais on parle peu d'anxiété. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que l'anxiété exactement ? Quelle est la différence avec le stress ? Si on va parler d'angoisse, on vous dit tout avec Marie pendant cet épisode et croyez-moi, vous serez surprise de la différence entre anxiété et stress parce que bien souvent, on ne met pas le stress au bon endroit. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse écouter l'intégralité de cet épisode et je vous retrouve pour la conclusion. Bonjour Marie.
Bonjour Audrey.
Comment tu vas Marie ?
Eh bien, ça va bien, merci. Et toi ?
Ça va aussi, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Le Bonheur me va si bien. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas eu d'invité, donc ça me fait du bien de t'avoir avec moi à mes côtés aujourd'hui pour parler d'un sujet dont je n'ai jamais parlé encore et dont on parle trop peu, je trouve, parce qu'on parle de stress, on parle de peur, on parle de croyances, mais l'anxiété, puisque c'est le sujet du jour, est trop peu abordée. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation.
Mais avec plaisir, pour tout te dire, c'est mon premier podcast, donc je suis ravie de l'inaugurer avec toi.
Voilà, c'est top. Et avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
Bien sûr. Alors, je m'appelle donc Marie et je suis sophrologue. Et puis, un petit peu par la force des choses, j'ai envie de dire, je suis venue à me spécialiser justement en anxiété parce que c'est un sujet qui me parle, moi, personnellement. Et j'ai remarqué, en fait, en discutant autour de moi, que c'était un sujet qui concernait énormément de personnes et comme tu l'as dit tout à l'heure, on en parle trop peu, c'est tabou, on n'ose pas le dire, on se dit qu'on est stressé, que c'est normal, etc. Et ça ne l'est pas. Et donc mon rôle, c'est d'accompagner justement les femmes et les hommes à apprendre en fait à retrouver une vie sereine, à se libérer de cette anxiété lorsqu'elle devient trop présente et trop handicapante.
Ok, donc on va commencer par la question que j'adore. Ce n'est pas quoi l'anxiété ?
Alors déjà, je dirais que ce n'est pas quelque chose de honteux, quelque chose dont on doit avoir honte, dont on doit cacher au monde qu'on a de l'anxiété. Ensuite, l'anxiété, à la base, ce n'est pas quelque chose non plus d'anormal. On ressent tous de l'anxiété dans nos vies. Donc j'insiste, ce n'est pas anormal d'avoir de l'anxiété. Si vous avez de l'anxiété, pas de panique, ça arrive à tout le monde. Et enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tout à l'heure, l'anxiété, ce n'est pas du stress. C'est quelque chose d'un peu plus subtil, d'un peu différent et qui peut, à terme, devenir, handicapant si on laisse cette anxiété-là s'installer un petit peu trop longtemps.
Ok. Donc, justement, stress, anxiété, on fait souvent l'amalgame, pour être honnête. On parle, je suis anxieuse, tu vois, on ne fait pas de différence. Toi, quelle est la différence que tu fais entre ces deux mots ?
Et tu as raison, on ne fait pas de différence. On emploie le mot stress, le mot anxiété et encore très peu. L'anxiété, on dit très peu, je suis anxieuse ou j'ai de l'anxiété. On va dire, je suis stressée, je suis angoissée, j'ai de l'angoisse. Et en fait, effectivement, ce sont des termes qui sont différents. Et donc, pour essayer de schématiser, le stress, ça va être une réaction physiologique de notre corps à l'instant T pendant une situation stressante. Je m'explique. Si par exemple, demain, tu passes en entretien, un nouveau travail, ou alors que tu dois faire une conférence devant 80 personnes. Bon, à l'instant T, devant tes 80 personnes ou devant ton recruteur, tu vas avoir un petit peu les mains moites, peut-être la bouche un peu pâteuse et les jambes qui tremblotent. Donc ça, c'est du stress. On y est, on est dans l'instant T. L'anxiété, en revanche, c'est l'appréhension de cet événement stressant. C'est ce que tu vas ressentir une semaine avant ta conférence, justement, quand tu vas commencer à la préparer, quand tu vas t'entraîner, tu vas peut-être mal dormir, parce que tu ressens de l'anxiété et donc de l'appréhension. Et c'est pour ça que je dis que c'est tout à fait normal. Qui n'a jamais ressenti déjà du stress dans une situation comme un entretien, par exemple, ou et même de l'anxiété en amont? C'est tout à fait normal. Là où ça commence à être un petit peu déréglé, on va dire, dérégulé, c'est quand l'anxiété perdure, même après l'événement stressant en question. Quand on commence à avoir de l'anxiété pour à peu près tout et n'importe quoi, et sans avoir de raison ou d'événement stressant qui approche.
Ok. Donc, anxiété, quand même liée à nos propres peurs, nos propres croyances, puisque là, tu parles par exemple d'un événement. Je vais être anxieuse parce que je dois passer devant 80 personnes, donc je vais peut-être pas bien dormir, pas bien manger. Je vais ruminer, me poser beaucoup de questions, beaucoup de peurs. Oh, je vais pas y arriver, j'en suis pas capable, qu'est-ce qu'ils vont penser si j'échoue, etc. On est dans cette boucle-là, on est d'accord?
Absolument. L'anxiété, d'ailleurs, est souvent liée aussi à un manque de confiance en soi ou un manque d'estime de soi. Et puis, c'est un peu un cercle vicieux. Je vais être anxieuse, donc je vais douter encore plus. Puis, ça alimente mon anxiété qui alimente mon manque de confiance en moi ou le manque d'estime que je peux avoir. Mais oui, tout à fait. Il y a tout un tas de croyances qui se cachent derrière l'anxiété à la base, la peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur.
Exactement. Et tout à l'heure, tu as employé le mot « angoisse ». Donc, anxiété, angoisse, là, elle est où la différence, s'il y en a une?
Il y en a une, effectivement. C'est assez subtil, mais du coup, l'angoisse, c'est le pic du stress, le pic de la peur, en fait. Et ça peut être très paralysant, en fait. L'angoisse, c'est, là, je suis au maximum de ce que je peux ressentir comme peur par rapport à un événement. Et donc, je suis angoissée, je peux faire une crise d'angoisse, je perds complètement mes moyens, je me sens pas bien. Donc, voilà la différence vraiment entre ces trois. Le stress, c'est pendant l'événement, c'est une réaction physiologique. L'anxiété, c'est en amont, c'est la peur d'un événement. Et l'angoisse, c'est en quelque sorte la crise de peur. Donc la peur est vraiment à son maximum.
Super, j'adore toi le schéma que tu viens de faire, c'est top. Je pense que là, notre audience devrait hyper bien comprendre la distinction entre ces deux.
J'espère.
Yes, c'est top. On a déjà parlé. Mais est-ce que tu pourrais nous donner des symptômes, on va dire, symptômes justement de l'anxiété? Mais de l'anxiété anormale, tu vois, de ce truc qui vient, qui est là, qui est pesant, qui est tout le temps là et qui vient gâcher la vie, en fait. Parce que c'est normal, je le redis, d'avoir ce stress qui monte quand on est le jour J, d'avoir cette angoisse, ces questionnements, ces doutes, cette anxiété en amont. Donc là, on est OK, c'est humain. Mais quels sont les autres symptômes qui doivent nous faire dire « attention, là, ça va pas ».
Ouais. Bon, déjà, la première chose, comme je disais, si l'anxiété, si ce sentiment de mal-être, de sentiment anxiogène perdure même après l'événement, ou alors il n'y a pas vraiment d'événement stressant qui se profile. Si tu te réveilles un matin et que tu as la boule au ventre, que tu as la nausée par exemple, que tu te sens anxieuse ou stressée, comme on pourrait dire dans le langage courant, et qu'il ne se passe absolument rien dans la journée ou dans les jours à venir, déjà se poser la question. Tiens, je me sens comme ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un événement auquel je n'ai pas pensé et qui finalement me rend anxieuse inconsciemment presque, j'ai envie de dire, ou alors est-ce que non, il se passe pas grand-chose et là, je dois peut-être me poser un peu plus de questions. Donc, en fait, ça passe par être à l'écoute de soi. Et on a tendance beaucoup à mettre ça sous le tapis. Ah, tiens, je me sens anxieuse ou je me sens stressée, comme on dit couramment. Bon, c'est pas grave, allez, j'ai pas le temps pour ça, donc là, j'ai trop de choses à faire, je dois m'occuper de mes enfants, je dois aller au travail, je dois faire ci, je dois faire ça. Je me mets sous le tapis. Et ça ne disparaît pas, généralement.
Non. Et je pense, j'entends parce que j'ai une amie, moi, qui est vraiment dans l'anxiété, dès qu'elle va prendre les transports en commun. Donc, on est d'accord que l'événement, en soi, il y a des personnes qui vont pouvoir aller à un entretien d'embauche, faire un truc devant 80 personnes et ne pas ressentir d'anxiété ni de stress. C'est aussi, des fois, quand on parle d'événements, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, des choses qui peuvent paraître simples pour certaines personnes, mais qui ne le sont pas pour toutes. Donc là, je pense à cette amie qui va prendre le bus, prendre tout ce qui est transport en commun, pour elle, c'est anxiogène. Et là, ça pose problème dans sa vie courante. Donc, on est d'accord que l'événement, ça peut être quelque chose d'anodin pour certaines personnes, mais qui va être pour d'autres pas du tout.
Mais totalement. Ça peut être, j'ai envie de dire, tout et n'importe quoi. C'est pas forcément voilà, un événement très stressant, comme j'ai pris tout à l'heure, qui je pense que tout le monde s'accorderait à dire que c'est stressant de parler devant 80 personnes, mais tu as raison de le souligner. Ça peut être prendre les transports en commun, ça peut être prendre sa voiture, ça peut être être loin de chez soi, ça peut être aller dans un centre commercial parce qu'il y a du monde. Tout un tas d'actions du quotidien, j'ai envie de dire, qui paraissent normales pour beaucoup de monde, voilà, entre guillemets, peuvent être source d'anxiété pour d'autres. Il n'y a vraiment pas de règle. Et c'est pas parce que on ressent de l'anxiété à l'idée de prendre les transports ou alors d'aller dans un centre commercial qui peut paraître anodin qu'on doit en avoir honte et qu'on doit pas accepter en fait cette anxiété et essayer de la cacher, essayer de la camoufler parce que bon bien souvent ça ne marche pas refouler, c'est comme refouler ses émotions, ça ne résout pas la situation. Donc voilà. Mais oui oui, tu fais bien de le préciser, ça peut vraiment être tout un tas de choses du quotidien.
Et donc On va parler de clés après pour développer ce qu'on appelle, nous, sa sécurité intérieure. Mais comme tu me l'as précisé en préparation de cet épisode, il est important pour toutes les personnes qui ont, entre guillemets, cette anxiété qui vient gâcher leur quotidien, qui vient les déranger trop régulièrement, qui vient les empêcher de faire des choses, de se faire aider. Donc, toi, tu es spécialiste en tant que sophrologue de l'anxiété, soit parfois vraiment quand c'est devenu presque maladif, un autre professionnel de santé. Ne restez pas avec cette anxiété qui vous ronge à l'intérieur en essayant, comme tu l'as dit, de la mettre sous le tapis. Non, c'est bon, ça va passer. Ça passera pas. Et si ça vous empêche de vivre une vie sereine, ça peut changer. Ce n'est pas unique. Bon, chacune a ses spécificités, mais il est possible de changer et c'est pas une honte, comme tu viens de le dire.
Exactement, tu as tout à fait raison et j'insiste aussi sur ce point-là, je vois trop de personnes qui viennent me voir et qui me disent bah, « en fait, j'ai de l'anxiété depuis des années et aujourd'hui, bah, je n'arrive plus à sortir de chez moi, je n'arrive plus du tout à prendre les transports en commun, je n'arrive plus à travailler, l'anxiété est devenue tellement présente qu'elle en est handicapante ». Donc n'attendez pas d'être à ce stade-là pour réagir, même s'il n'est jamais trop tard évidemment, mais plus vous attendez, plus vous, déjà, vous êtes en souffrance. Et plus le travail qu'il faudra fournir pour apaiser cette anxiété, retrouver cette sécurité intérieure sera important. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'aller consulter, que ça soit un médecin, votre médecin de famille, par exemple, pourquoi pas, pour commencer, ou alors d'autres professionnels, et de leur en parler, quitte à ce qu'on vous dise « non, mais vous inquiétez pas, tout va bien ». Il vaut mieux que ça soit dans ce sens-là, plutôt que vous vous contraigniez, que vous attendiez au maximum, et que puis un jour, en fait, ça soit trop important, trop lourd à porter et que vous soyez au plus mal, en fait.
Et je sais déjà que j'ai des personnes parmi l'audience qui vont dire « Mais Audrey, quand est-ce qu'on sait que c'est vraiment trop ?» Donc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est se reconnecter à soi. Si vraiment ça vous handicape, ça vous bloque dans certains projets, certaines envies, certaines choses de la vie courante, aller faire vos courses, aller travailler, déjà, on est déjà hyper loin pour moi dans la problématique. Mais si, par exemple, ça vous bloque dans un projet, une envie, je ne sais pas, vous avez envie de repeindre votre maison, vous avez envie de faire quelque chose, mais « Ah ouais, mais non, là, il faut que j'aille dans le magasin, ah, il va y avoir du monde, il faut que je pose une question. » Tu sais, là, le truc de dire « Oh là là, il va falloir que je pose des questions. » Bah là, non, ça vous empêche.
Oui. Et puis, il y a aussi le fait de mal dormir, par exemple. Les personnes qui sont anxieuses ont souvent des problèmes de sommeil qui se règlent tout seul dès qu'on a réglé l'anxiété. Parce qu'en fait, le système nerveux est tellement en vigilance, parce que l'anxiété, c'est ça, c'est un état d'hypervigilance, comme si on se préparait pour un danger qui n'arrive finalement jamais. Donc, on s'épuise à attendre ce danger et à se préparer au combat, entre guillemets. Et donc, même la nuit, le système nerveux est en hypervigilance, exactement, déréglé. Et donc, on dort mal. Ça peut être à l'endormissement, mais ça peut aussi être des réveils nocturnes, sans trop savoir pourquoi. Finalement, on se réveille et on n'arrive plus à se rendormir. Donc, si vous avez des troubles du sommeil, si vous vous réveillez le matin avec la boule au ventre, rien qu'à l'idée de sortir du lit, de commencer une nouvelle journée, là aussi, posez-vous des questions.
Et puis, toutes les petites choses qu'on appelle, qui sont liées, tu sais, les petits tocs ou les petits tics qu'on a, entre guillemets, liés au stress, parce qu'on parle de stress dans ces cas-là, se ronger les ongles, se triturer les cheveux, les petites choses comme ça, toutes ces... Donc, ce n'est pas le stress, parce que tu nous l'as expliqué tout à l'heure, le stress, c'est vraiment ce moment où on est dedans. Là, c'est tout ce qui est en amont. Bah, tous ces petits tics que vous avez sont aussi des signes qu'il y a de l'anxiété, qu'il y a y a un petit truc, il y a un inconfort qui est là et bah, écoutez-le, apprenez à l'identifier, puis ok, qu'est-ce qu'il vous dit, etc. Donc ça, on va peut-être en reparler dans les clés là, je ne vais pas aller plus loin.
Oui, et d'ailleurs, il y a aussi une petite chose qui est une stratégie que les personnes qui ont l'anxiété mettent en place consciemment ou inconsciemment, qui n'est pas forcément la solution. Donc, je pense que c'est important aussi de le dire, c'est l'évitement. Et l'évitement des situations anxiogènes, justement, ou angoissantes. Donc, ouais, bah non, bah, je ne peux plus aller au supermarché, je trouve une parade pour que ça soit mon mari, mes amis, ma mère, qui que ce soit, qui passe au supermarché faire des courses pour moi au passage. Ah, bah, je ne peux plus aller à tel endroit, les transports, ça m'angoisse, bon, bah, je ne le fais plus, ce n'est pas grave, je n'irai pas boire un verre ce soir parce que je ne me sens pas de prendre les transports. Et donc, sur le moment, ça soulage. Effectivement, on évite une situation qui est très anxiogène, voire angoissante. Très bien. Sauf que ces petits comportements-là renforcent, en fait, l'anxiété, renforcent la peur par rapport à l'événement. Donc, admettons celui de prendre les transports. Et du coup, ça renforce, ça renforce, ça renforce et ça ne vous rend pas service. Donc, si vous voyez que vous avez des stratégies d'évitement comme ça qui se mettent en place, là aussi, faites attention. Dites-vous que c'est peut-être pas tout à fait normal et qu'il va peut-être falloir réagir.
Exactement. Merci Marie. Voilà, c'est une petite stratégie d'évitement, la fuite émotionnelle. Hop, hop, hop. Oh non, mais c'est pas grave. Puis au final, on culpabilise, on n'est pas bien. Ah ouais, je suis toute seule. Ah, j'aurais été bien. Ouais, mais non, il y avait les transports. Ça vous empêche de vivre pleinement. Et à partir du moment pour moi où ça vous empêche de vivre pleinement, il y a problème.
Exactement. Je pense que tu as bien résumé cette phrase. À partir du moment où votre anxiété ou vos peurs vous empêchent de vivre votre vie pleinement ou normalement, entre guillemets, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas normal et qu'il faut peut-être réagir à ce moment-là.
Exactement. Donc Marie, je vais te demander maintenant quelles sont pour toi les clés pour développer sa sécurité intérieure. Donc sa sécurité intérieure, c'est ce sentiment d'être OK avec soi, en sécurité, se sentir bien, ne pas avoir de boule, de stress. Je suis là, je suis bien, je suis au bon endroit et je me sens bien. On est OK sur cette définition ?
Oui, très bien. Alors, je vais parler du coup en tant que sophrologue et en sophrologie, nous, on travaille à la fois sur le corps et l'esprit. On part du principe que les deux sont connectés et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent et peut-être même toi Audrey, tu l'as déjà vécu dans ta vie, quand ça va pas dans notre tête, il se passe des choses dans notre corps. On va ressentir justement la boule au ventre, les mains moites, peut-être la nausée, des migraines, des maux de tête. Et puis, pareil, quand notre corps ne va pas bien, quand on a des douleurs par exemple, émotionnellement, mentalement, c'est assez dur à gérer. Donc, pour moi, ce qui est important de faire, c'est de passer aussi par son corps. Donc, tout à l'heure, on disait d'être à l'écoute de son corps. C'est une première chose, de se reconnecter à ses sensations. Mais ça passe aussi, pour moi, par la détente physique, musculaire, en fait. En évacuant les tensions physiques, déjà, on se relaxe, ça fait du bien. Mais on envoie également un message à son système nerveux qui est « Ok, je suis détendu, le corps est détendu ». Il n'est pas prêt à se défendre en cas de danger, les tensions se sont apaisées. Donc, toi, le système nerveux, tu peux aussi te détendre. Il n'y a pas de danger. Étant donné que les deux communiquent, c'est important aussi de pouvoir passer par le corps. Parfois, je vois des personnes qui sont très dans le mental. En plus, quand on est anxieux, on a tendance à énormément réfléchir, énormément se poser de questions. Donc non, sortez de votre tête un petit peu. Il s'y passe déjà beaucoup de choses. Redescendez dans votre corps. Et ça passe du coup par la détente, la décontraction du corps. Très important. Donc, bon, il existe plein de petites techniques, mais si je peux en donner une rapidement qui est très simple, simplement, mettez-vous dans un endroit assez calme, allongez-vous par exemple, ou asseyez-vous, vous êtes peut-être au travail, au bureau, peu importe, fermez vos yeux quelques instants et portez attention à votre corps. Essayez de regarder si vous sentez certaines choses. Et là, je pense que les gens qui nous écoutent reconnaîtront ce que je vais dire, mais les tensions au niveau des trapèzes, par exemple, au niveau de la nuque. Bon, ça se crisper quand on est anxieux, puis même quand on est derrière un bureau. Donc, prenez quelques secondes pour vous poser. Et en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est contracter au maximum tous les muscles de votre corps. Vous les contractez, vous les contractez, vous les contractez, et puis vous relâchez complètement. Et en fait, cette contraction, décontraction va venir alourdir le muscle, va venir le détendre. Une technique très simple que vous pouvez faire à peu près partout. Et qui va vous aider petit à petit à évacuer les tensions physiques que vous pourrez avoir. Donc, première chose, voilà, qui pour moi me paraît important, c'est de passer par le corps.
J'avais l'impression de m'entendre moi. Couper le mental, revenez dans le corps. Parce que, je sais pas si tu connais le design humain.
Oui.
C'est un outil que j'utilise et c'est clairement ça. En fait, c'est le déconditionnement de notre mental et repasser par son corps, ses émotions, cette sécurité, ce sentiment d'être là, son intuition, avoir tout ce que nous dit notre corps plutôt que de prendre des décisions avec sa tête qui ne nous donne souvent pas les bonnes indications.
Exactement. Les fameuses pensées. Et d'ailleurs, en parlant des pensées, quand on est anxieux, justement, on a beaucoup de pensées, on est très souvent dans le futur, en train d'anticiper, de s'imaginer le pire, de se faire des films. C'est très fatigant, on a une charge mentale du coup qui est énorme, et puis c'est épuisant. Donc, ce qui est important aussi pour arriver à développer cette fameuse sécurité intérieure, à se sentir en fait plus serein, c'est de s'entraîner à être beaucoup plus présent. Et ça, pour le coup, je sais à quel point c'est compliqué, surtout dans notre société où on est déjà très stimulé de tous les côtés, les téléphones, les écrans, les personnes, les interactions sociales, etc. On est tout le temps en train d'être attiré par quelque chose, de réfléchir, donc c'est très compliqué. Mais pour autant, de prendre quelques secondes, ne serait-ce que quelques secondes par jour, pour se reconcentrer sur l'instant présent, sur soi, sur ce qu'on est en train de faire. Ça peut être en faisant la vaisselle, par exemple. Ça peut être en prenant sa douche. En quelques instants, se dire « Ok, là, je suis sous ma douche, je suis en train de faire quoi ? Ok, l'eau est chaude, c'est agréable, il y a de la buée autour de moi, je ressens telle sensation. » Ou alors « Ah, ben tiens, l'odeur de mon gel douche, c'est agréable. » Et puis la même chose quand vous faites la vaisselle, la sensation de l'eau, est-ce qu'elle est chaude, est-ce qu'elle est froide ? Le contact des mains avec peut-être le gant, si vous faites la vaisselle avec des gants, ou alors avec l'assiette, par exemple. Prendre quelques secondes pour se recentrer, en fait, simplement. Et au début, ça paraîtra un peu compliqué, peut-être même ennuyeux, mais à force, on prend l'habitude d'être naturellement plus présent. Et vous n'aurez plus besoin de faire tout un tas d'exercices, ça sera beaucoup plus naturel. Et croyez-moi, ça fait du bien d'arrêter de penser à tout et n'importe quoi et d'être juste focus sur ce qui est en train de se passer là, maintenant.
C'est tellement ça. Moi, je parle souvent du repas. Tu sais, on mange tellement vite des fois. On fait même pas attention à ce qu'on mange. Et je dis, voilà, prenez le temps de savourer ce que vous mangez, d'être là, de c'est chaud, c'est froid, c'est croustillant, c'est mou, c'est tendre, c'est quoi exactement ? Et puis d'apprécier ce que l'on mange plutôt d'être toujours dans... Bah, je suis un très mauvais exemple. Hein. En tant que maman, bah, tu te lèves 3 fois, 10 fois de table, enfin, ça dépend des repas, t'as pas le temps de manger en fait. Et ça, c'est hyper, hyper mauvais pour cette anxiété qui est là parce que t'as pas le temps de souffler, t'as pas le temps de... Voilà, t'es toujours dans le mouvement et c'est comme être dans le mental, c'est pas très bon.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, justement, je voudrais préciser, parce que comme tu le dis, quand tu es une maman, tu as plein de choses à gérer, tu te lèves plein de fois de table. Donc, juste ne culpabilisez pas non plus. Le but, c'est pas d'être pleine conscience tout le temps à table, etc. Non, peut-être que pour toi, par exemple, Audrey, bon, le moment du repas, c'est pas le meilleur moment pour t'exprimer. Voilà, mais c'est pas grave. Juste acceptons-le, c'est pas le bon moment. Peut-être que tu peux le faire, par exemple, quand tu es dans ta douche. Peut-être que c'est plus simple. Tu as un moment, tu as quelques minutes tranquille.
Ah bah moi, voilà. C'est mon thé. Moi, je sais que le matin, je fais chauffer mon thé, par exemple, pour le petit-déj. Je pars à l'école, le thé est toujours dans la tasse. Voilà. Donc, je réchauffe mon thé après coup et je prends quelques minutes pour moi avec mon thé. Et comme tu dis, ne pas culpabiliser et trouver le moment où on peut faire ça.
C'est ça. Même si c'est que quelques minutes, c'est vraiment pas un problème. Nous ne sommes pas des moines bouddhistes. Ce que je dis tout le temps, on n'a pas besoin de méditer tout le temps, pendant des heures, d'être en tailleur, de faire plein d'exercices en permanence. Non, on a tous et toutes des vies très chargées. Donc, il n'y a aucun problème. Mais juste prenons quelques secondes par-ci, par-là, au meilleur moment pour nous, pour essayer de se recentrer, pour souffler un petit peu, parce que ça fait du bien, en fait.
C'est ça. Ok, donc là, tu nous as déjà donné 2 clés. Est-ce que tu en as d'autres ?
Oui, une chose aussi qui est importante, à mon sens, on parlait tout à l'heure de confiance en soi, d'estime de soi. Et on parlait aussi de la stratégie d'évitement. Donc, ce que je propose, ce qui pour moi est important à faire, c'est de célébrer, j'ai envie de dire, les petites victoires qu'on peut faire, qu'on peut avoir au quotidien. Et vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Pas besoin d'avoir accompli quelque chose de génial ou quelque chose hors du commun, pardon, pour le notifier, pour se le dire. Mais peut-être prendre le temps. Pareil, quand on a le temps, le soir par exemple, ou alors dans les transports en commun, pour celles qui prennent les transports en commun, de noter, de prendre conscience de certaines choses qu'on a fait et pour lesquelles, en fait, on peut être plutôt fier de soi. Ça peut être, justement, j'ai réussi à prendre 2 minutes pour me concentrer sur ce que j'étais en train de faire, sur mon thé que j'étais en train de boire, j'ai savouré et ça m'était pas arrivé depuis un moment, c'est génial. Ou alors, ah bah tiens, j'ai réussi à sortir de chez moi, à faire le tour du pâté de maison. Alors oui, j'étais anxieuse, oui, j'étais pas bien, mais j'ai réussi à le faire, je suis super fière de moi, c'est un premier pas. Plein de petites choses comme ça qui en fait vont venir booster, j'ai envie de dire, votre ego, la confiance en soi, et qui vont vous donner envie d'aller plus loin. C'est en quelque sorte un peu le système de récompense. On est fier, waouh, j'ai réussi, c'est génial. Et ça nous donne envie d'aller un peu plus loin. Et encore une fois, j'insiste, pas besoin d'accomplir des trucs de fou. Pour commencer, ça peut vraiment être des petits pas. Mais petit pas plus petit pas, on arrive quand même à avancer. Et donc, c'est l'essentiel.
Je n'aurais pas dit mieux. Celles qui me connaissent le savent, je les invite. J'invite les personnes qui font mon accompagnement créatrice à faire des apéros victoires chaque semaine avec leur famille. Voilà, donc celles qui m'écoutent régulièrement ont déjà dû l'entendre, ce principe de... Alors, j'aime pas dire petite victoire parce qu'en fait, il y a que nous qui sommes capables de juger si c'est une victoire ou pas une victoire. Tu sais, c'est comme tout à l'heure, on parlait des transports en commun. Mais quelqu'un qui est dans l'anxiété de prendre un bus, le jour où il y arrive, c'est juste un truc à célébrer. Mais tu sais, le truc, mais vraiment, c'est pas parce que 90% de la population arrive à prendre un bus sans se poser de questions que parce que vous y arrivez alors que ça fait des années que vous luttez pour, vous ne devez pas le célébrer, au contraire. À vous de juger ce qui a été difficile pour vous et de la difficulté que vous avez eue pour arriver jusque-là où vous en êtes. Et ça, c'est hyper important, mais vraiment primordial.
Oui, tout à fait. Et tu sais pourquoi j'emploie ce terme de petite victoire, alors que je suis en réalité tout à fait d'accord avec toi? C'est parce que justement, on a tendance, quand j'en discute avec les personnes qui viennent me voir en consultation, elles ont tendance à minimiser, en fait, leurs actions et leurs victoires. Et pour elles, c'est pas vraiment une victoire. Oh, mais ça, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est anodin. Et donc, c'est pour ça que j'emploie ce terme de petite victoire. C'est pour que la personne en face de moi se dise « Ok, bon, bah alors ça, c'était peut-être pas incroyable à mes yeux, mais donc ça rentre peut-être dans une petite victoire, donc peut-être que je peux le célébrer. »
C'est ça.
Voilà.
J'ai eu la même que toi il n'y a pas très longtemps en coaching individuel. Je crois que c'était « T'as réussi. Célébrer tes réussites. » Et là, elle me dit « Mais Audrey, j'ai pas réussi. Je suis pas allée au bout du projet. » Ok, d'accord. Donc, c'est peut-être se féliciter, tu vois. Je dis, félicite-toi pour chaque pas, en fait. Tu vois, j'essaye, pareil comme toi, trouver des mots, petite victoire, se féliciter, se célébrer, réussite, parce que chaque personne a sa définition. Et elle m'avait dit plein de trucs dans le coaching. Je dis, mais tu te rends compte? Oui, mais c'est pas une réussite, ça. Ah, donc c'est quoi ta définition de réussite? Et donc là, j'ai compris que réussite, pour elle, c'était vraiment aboutir le projet, tu vois. Donc, trouver le truc qui fait que, mais se féliciter, victoire, petite victoire, succès, petit succès, grande victoire, grande réussite, peu importe, mais d'avance, enfin de ce qui a été un effort pour vous, en fait, et ben juste de vous en féliciter parce que vous avez réussi à faire cet effort et que vous êtes allé, vous avez avancé d'un pas par rapport à votre zone de confort, entre guillemets, habituelle.
Exactement. Et puis, on a tendance à être tellement exigeant envers soi-même, tellement dur envers soi-même, que comme tu dis, la personne ne voyait pas ça comme une réussite parce que elle se devait, en tout cas, c'est ce qu'elle croyait, elle se devait de réussir complètement pour être fière d'elle. Et on est nombreux à être comme ça. Hein. Même moi, je peux être coupable. Mais oui, effectivement, c'est important de prendre le temps de se dire, bon, tiens, qu'est-ce que j'ai fait que je pourrais célébrer, entre guillemets, même si peut-être que célébrer, ça paraît trop fort comme mot, mais en tout cas, me dire, moi, tiens, ça, je l'ai fait quand même, c'est vraiment pas mal. J'aurais pas pensé que j'aurais pu le faire ou j'ai réussi, c'est cool, je suis fière de moi.
Et la fierté, ce n'est pas une émotion négative. Tu sais, souvent, ce sentiment de dire, ouais, mais tu vois, l'autre, il est fier, là. Ah, qu'est-ce qu'elle est fière, celle-là. C'est pas négatif. Enfin, la fierté, c'est une émotion positive qui va vous donner un sentiment de plénitude et de bien-être. Ne pensez pas que d'être fière de quelque chose, c'est mal.
Non, c'est clair. Au contraire, c'est un moteur, je trouve. La fierté, ça nous donne envie d'aller plus loin. On est fiers de soi. Ok, ben je vais recommencer parce que ce sentiment est agréable. Et d'ailleurs, pour l'anxiété, souvent ce que je dis, c'est que une des meilleures façons, j'ai envie de dire, de contrer cette anxiété-là, c'est de se prouver à soi-même par A plus B qu'on est capable de faire cette chose qui nous fait peur. Alors on va peut-être pas se jeter dans le grand bain tout de suite, mais des petits pas qui vont nous donner confiance. Ah, je suis fière, j'ai réussi. Ben, en fait, je peux aller plus loin, j'ai confiance en moi. Allez, donc un peu plus. Et puis, à la fin, on y arrive et on se prouve à soi-même, prouve à son système nerveux, à son cerveau, qu'en fait, on avait peur de cette chose-là, mais finalement, je suis tout à fait capable de la surmonter. Au contraire de l'évitement qui, du coup, renforce cette peur.
C'est ça, exactement. Toi, c'est super, j'adore. Parce que quand même, je précise, on prépare un peu les quelques questions, mais les clés, je n'étais pas au courant de ce que tu allais nous partager. Et je pense que je suis hyper alignée avec tout ce que tu dis.
Je suis contente.
Est-ce que tu as autre chose à partager sur cette sécurité intérieure, comment la renforcer?
Oui, une dernière chose que je voudrais préciser aussi, c'est que parfois, tout seul, on a du mal, on n'y arrive pas. Déjà, ce n'est pas une honte de se dire, bon, bah là, voilà, j'ai essayé plein de choses, j'ai testé tous les conseils que j'ai trouvés sur Instagram et pourtant, j'ai toujours de l'anxiété. J'ai lu plein de livres de développement personnel qui disent comment aller mieux et en fait, je n'y vais pas mieux, ou ça ne marche pas, ou c'est temporaire, parce que ça revient énormément, en fait. On essaie de trouver des solutions par soi-même. Et puis voilà, chez certaines personnes, ça fonctionne. Et puis chez d'autres, ça ne fonctionne pas aussi bien que ce que la personne espérait. Et dans ce cas-là, vraiment, en fait, je ne peux que vous conseiller de consulter un professionnel, un thérapeute, quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner, vous aider. Alors évidemment, moi, je prêche pour ma paroisse parce que je suis sophrologue, mais en fait, j'ai envie de dire, choisissez une méthode qui vous attire déjà, qui vous parle, et puis un praticien avec qui vous vous sentez bien. Honnêtement, il vaut mieux se tourner vers un praticien, investir, oui, son temps, oui, son argent, mais voir des résultats rapidement, plutôt que de traîner cette anxiété sur des années, cette anxiété qui va ne faire qu'empirer, que s'amplifier. Et finalement, vous allez probablement à terme finir par voir quelqu'un et vous aurez perdu du temps. Alors, chacun passe le cap quand il est prêt. Voilà, je force personne, évidemment, c'est pas du tout le but. Mais je veux juste dire, n'ayez pas peur, en fait, d'aller voir quelqu'un. Peu importe qui c'est, peu importe la méthode, bon, si tant est qu'elle ait quand même fait ses preuves et que le praticien soit minimum sérieux. Mais voilà, c'est aussi important, en fait, de se dire qu'il y a des personnes, c'est leur métier de vous aider, de vous accompagner à vous sentir bien. Donc, n'ayez pas peur d'aller toquer à leur porte, simplement.
Exactement, mais tellement. Et c'est hyper important ce que tu viens de dire, donc de se faire aider. Alors, se faire aider, il y a des praticiens, mais déjà, la première étape, parfois, c'est juste d'en parler à son entourage. Aussi, tu vois, le truc, tirer la sonnette d'alarme, dire là, je peux pas, je vais faire une crise d'angoisse, c'est impossible pour moi. Enfin, la vulnérabilité, être OK avec ça, c'est normal. Ensuite, bah oui, se faire accompagner par des gens qui sont formés, vraiment formés pour ça. Et tu l'as dit aussi, c'est choisissez au feeling. Tu sais, c'est ce côté, le corps vous dit, cette personne, elle me parle, elle m'appelle, oui, ça me va, plutôt que d'être dans le mental, le corps vous dit des choses. Et faites attention parce que bien évidemment aujourd'hui, c'était déjà le cas avant, mais je pense que depuis le confinement, on voit de tout apparaître. Sophrologue, c'est une certification, c'est un diplôme reconnu par l'État. Donc tout le monde ne peut pas se dire sophrologue aujourd'hui. Coach, tout le monde peut se dire coach en France.
Effectivement, il faut faire attention aux praticiens que vous choisissez, essayez de regarder les diplômes effectivement de la personne et ses certifications, regardez pourquoi pas aussi les avis sur Google si la personne en a, et puis voilà, essayez de vous faire aussi votre propre avis, quitte à faire un premier rendez-vous et vous dire bon bah génial, en fait je me sens à l'aise avec cette personne, sa méthode elle me parle totalement, ou alors bah, de vous dire bon bah non, peut-être pas en fait, je me sens pas hyper à l'aise, et c'est pas grave. Vraiment, la personne en face de vous ne devrait pas le prendre mal, il n'y a aucun souci. Et vous non plus, n'ayez pas honte, ne culpabilisez pas. Vous passez un moment avec cette personne et puis voilà, vous testerez peut-être une autre méthode, peut-être un autre praticien à un autre moment. Ça, c'est vraiment c'est important. En fait, il y a autant de praticiens que de personnalités différentes. Donc, choisissez quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise parce que c'est très important que vous puissiez lâcher prise. En fait, pendant ces rendez-vous-là, le but, c'est que vous puissiez vous laisser porter, j'ai envie de dire, par le professionnel. Si vous êtes sur la retenue, si vous n'êtes pas à l'aise, bon, c'est dommage.
C'est pas possible. Et puis, c'est pas ça, en fait. La relation qui doit se créer doit être saine et libre aussi à nous, accompagnants, parfois, de refuser quelqu'un avec qui ben, on sent qu'on n'est pas dans une, ce qu'on appelle, nous, en tant qu'accompagnants, une alliance de travail qui va être saine pour nous comme pour la personne. Donc, on ne fait pas perdre du temps à quelqu'un en disant « je vais aller voir, je vais découvrir ce professionnel, je vais voir comment ça se passe. Ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas bien, eh bien, on s'arrête là. » Et c'est mieux comme ça pour tout le monde. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas bien, bah, l'accompagnant va se remettre beaucoup en question aussi. À un moment donné, voilà, donc vous pensez à ça. OK, et bah, dis-moi, on a quand même de belles clés là, pour développer ça. Une meilleure compréhension quand même de ce que c'est que l'anxiété. Là, je pense que c'est clair, stress, anxiété, angoisse. On a le schéma bien défini. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Eh bien, écoute, je suis contente si en tout cas c'est clair. J'espère que ça l'est. J'espère que les personnes qui nous écoutent auront une meilleure vision de ce qu'est l'anxiété, qu'on aura aussi un peu réussi à, comment dire, enlever ce tabou qu'il y a aussi sur l'anxiété. Comme tu disais, on en parle peu. Et encore que je trouve que ça commence à évoluer. Mais justement, parfois, c'est un petit peu trop diabolisé. Et ça peut faire peur. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas dire « j'ai de l'anxiété, je suis anxieuse, etc. » Je fais des crises d'angoisse parce que c'est un petit peu diabolisé. Parfois, je vois notamment des commentaires sur les réseaux sociaux ou en consultation quand je parle avec des personnes. Donc vraiment, j'insiste, l'anxiété à la base, c'est quelque chose de normal, de sain, j'ai envie de dire, comme toutes les émotions qu'on ressent. Donc si vous avez l'anxiété de temps en temps, eh bien, félicitations, vous êtes humain, moi aussi. Audrey aussi, persuadée. Donc ce n'est pas un problème. Et j'espère que si vous voyez que l'anxiété est handicapante aujourd'hui dans votre quotidien, ce podcast vous permettra d'y voir plus clair et peut-être justement d'essayer d'utiliser les clés qu'on a partagées et peut-être d'aller consulter votre médecin ou un thérapeute si vous sentez que c'est un peu trop difficile à gérer par vous-même.
Merci beaucoup Marie. Donc Marie, on te retrouve sur le compte Instagram Sophro & Co. Je ne suis pas trompée.
Tout à fait.
Je vous mettrai voilà, le lien dans le descriptif. Et si on a envie d'en voir un peu plus comment tu travailles, tu as un e-book qui s'appelle « Les règles d'or pour une vie plus sereine ». Je mettrai également le lien dans le descriptif.
Exactement, et je suis assez active sur Instagram, je publie plusieurs fois par semaine, donc n'hésitez pas aussi, je partage plein d'informations sur l'anxiété, des petites astuces, donc je pense que ça pourra compléter tout à fait notre podcast.
Je pense aussi, merci beaucoup Marie pour ce bel échange, j'étais vraiment ravie de le faire avec toi, et puis bah, pour toutes ces belles choses et ces beaux messages que tu as passés aujourd'hui.
Merci beaucoup à toi de m'avoir reçue Audrey.
Alors, cet épisode avec Marie, je suis sûre que vous avez été surprise par cette notion d'anxiété qui est donc avant l'événement, ce qui se passe avant, qui est ce sentiment-là qui est désagréable et qui peut aller jusqu'à l'angoisse, vous voyez. Et le stress, c'est donc uniquement au moment T. Vous voyez, on parle toujours de « ah, je suis stressée ». Mais non, là, c'est pas du stress, c'est de l'anxiété quand vous dites ça et que c'est de manière récurrente. Et on vous l'a dit et redit, ce sont des émotions, des sensations normales, naturelles, humaines. Tant que ça ne vous bloque pas, tant que ça ne vous empêche pas d'être, de vivre, c'est OK. Et c'est normal, donc n'en ayez pas honte. À partir du moment où ça devient vraiment bloquant pour vous, n'en ayez pas honte non plus. Par contre, là, il est peut-être temps de vous faire aider. J'ai échangé avec plusieurs d'entre vous sur ces thématiques il y a peu. Même si vous avez déjà essayé avec un professionnel de santé que ça n'a pas fonctionné, tentez avec quelqu'un d'autre. C'était peut-être pas le bon, c'était peut-être pas le bon moment pour vous, mais ne restez pas ainsi. Donc, vous pouvez retrouver Marie, la charmante Marie, avec qui franchement j'ai pris tellement de plaisir à échanger. On s'est retrouvés sur tellement de sujets. Vous avez dû l'entendre dans ses propos. Pour si vous m'écoutez déjà depuis un petit moment, bah, on dit la même chose, d'une façon différente, on dit la même chose. Donc, vous pouvez retrouver Marie sur son site Sophro & Co. Et je vous mets bien sûr le lien de son compte Instagram dans le descriptif de cet épisode, ainsi que le lien de son e-book sur les règles d'or pour plus de sérénité. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Pensez aussi à laisser un petit commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast, une 5 étoiles aussi, ça peut être sympathique, pour me signifier que vous avez apprécié cet épisode. À la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.